France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulé. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara se présente samedi le 25 octobre pour un quatrième mandat. Un scrutin qui s'annonce éruptif comme toutes les présidentielles depuis l'indépendance. Nous parlerons demain des passes d'armes avec le voisin burkinabé, accusé de désinformation. Mercredi du cacao, une rente aujourd'hui menacée. Jeudi de la musique au diapason du pouvoir désormais, du zouglou au rap ivoire. Aujourd'hui la campagne pour l'élection, ces figures tutélaires du paysage politique qui ne laissent aucune place aux jeunes.
Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige une expérience.
Nous sommes désagréablement surpris qu'au terme de ce mandat, il veuille encore briguer un quatrième mandat. Voilà. Et si celui qui fait un quatrième mandat, il ferait un cinquième, il ferait un sixième. Donc il s'octroie une présidente à vie à la tête de la Côte d'Ivoire, mais cela contre la loi fondamentale, contre la constitution ivoirienne.
La candidate de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. La candidature de M. Diam, Cheikh Tidiam, doit être déclarée irrécevable.
C'est ce qu'on appelle sur le continent africain l'épidémie du troisième mandat et qui va tranquillement se transformer en quatrième pour le président ivoirien Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011 après une élection qui s'était transformée en guerre civile. Un ancien opposant, chef d'étatisé selon l'expression du juriste centrafricain Jean-François Akanji Kombé, mais qui ne tient pas davantage ses promesses que ses prédécesseurs. En 2016, il fait changer la constitution et remet à zéro les compteurs de ses mandats. Il y a 15 ans, pourtant, le pays avait vu de nouveaux visages apparaître, de nouvelles voix se faire entendre, des jeunes en qui se levait un homme, comme l'avait écrit à l'époque l'un de nos invités de ce jour, Richard Banegas, des jeunes déterminés à faire prévaloir leur vision du monde, mais petit à petit, toutes leurs candidatures ont été bloquées et les partis ont repris la main dans ce que les Ivoiriens appellent « corocratie ». En malinké, le « coro », c'est le vieux. Car si Alassane Ouattara n'a pas engagé le renouvellement promis, ses principaux opposants non plus, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, toujours les mêmes qui monopolisent la parole publique. Et quand à l'intérieur de leur parti, quelqu'un se propose pour candidater à la présidence, anticipant que les caciques seront privés de campagne, ils ne sont absolument pas soutenus. Or, de l'exclusion des courants politiques les plus représentatifs naissent des élections jouées d'avance, et c'est quand il n'y a pas d'espace d'expression que la violence surgit, d'où la crainte avec laquelle beaucoup d'Ivoiriens voient venir cette date du 25 octobre, samedi prochain. Bonjour Camille Popineau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse postdoctorante à l'Université de Lille, rattachée au CERAPS, qui est le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Bonjour Richard Banegas.
Bonjour.
Et bienvenue à vous aussi. Vous êtes chercheur au CERI, professeur à Sciences Po, et vous êtes co-auteur de La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, co-écrit avec Armando Coutolo aux éditions Cartala. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. D'abord, Camille Popineau, on est à 5 jours de l'élection. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans quelle mesure l'armée, puisque vous avez particulièrement travaillé sur l'armée, dans quelle mesure cette armée se prépare au scrutin? Est-ce qu'il est prévu qu'elle se déploie largement dans tout le pays pour éviter que ne se renouvelle le cycle élection-violence post-électorale qui s'est perpétué jusqu'à la dernière élection en 2020?
Oui, l'armée est tout à fait sur le point de se déployer. On est dans un contexte assez tendu où il y a 44 000 policiers, gendarmes et militaires qui sont déployés sur tout le territoire. Donc il y en a 8000 de plus qu'il y a 5 ans. Et on est sur une situation de haute surveillance partout. Tout est extrêmement verrouillé, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte où je pense que symboliquement, il y a un enjeu à montrer et à faire un coup de force dans une sous-région assez déstabilisée, on va dire, à montrer, à donner une image de stabilité et de verrouillage, et d'où ce déploiement assez extraordinaire de l'armée, de la police et de la gendarmerie prévue pour samedi, même dans les jours qui précèdent.
Parce qu'aucun, depuis l'indépendance en Côte d'Ivoire, aucun scrutin présidentiel ne s'est déroulé sans de violents affrontements post-électoraux. En 2020, il y avait eu 85 morts et 500 blessés dans des affrontements très violents entre les partisans de l'opposition d'un côté, l'armée et la police de l'autre. En 2010-2011, Richard Banegas, la très grave crise, voire guerre civile, qui avait fait 3000 morts, avait été déclenchée par un désaccord entre la commission électorale indépendante qui donnait Alassane Ouattara vainqueur. Et ce jour-là, le représentant de son adversaire, Laurent Gbagbo, président sortant, avait littéralement arraché des mains du porte-parole de la commission électorale les résultats du scrutin devant les télévisions, quand le Conseil constitutionnel, lui, donnait Laurent Gbagbo vainqueur. En avril dernier, Richard Banegas, plusieurs opposants qui siégeaient à la commission électorale indépendante l'ont quitté, la jugeant acquise au pouvoir. Est-ce que ça veut dire qu'à ce jour-là, il n'y a plus aucun garde-fou pour samedi ?
Disons que le garde-fou institutionnel que sont la commission électorale indépendante, enfin soi-disant indépendante, et le conseil constitutionnel sont clairement, effectivement, politisés depuis de très nombreuses années. C'était des accords qui avaient été mis en place dès la création de la CEI, je crois en 2000 ou 2001, je ne me souviens plus exactement, d'un partage en quelque sorte des membres entre l'opposition et le pouvoir. La commission devait être réformée. L'an dernier, il y a eu de nouveaux membres qui ont été nommés. Mais malgré les demandes de l'opposition d'avoir, une composition plus équilibrée, cela n'a pas été le cas. Et faute, effectivement, d'avancer sur ce plan-là, l'opposition en est sortie récemment. Faute notamment d'avoir pu aussi réviser la liste électorale comme cela aurait dû être le cas. L'an dernier, un seul tout petit mois a été consacré à cette révision de la liste électorale, avec de nombreuses polémiques et controverses qui ont émaillé ce processus, notamment pour les personnes ne pouvaient pas avoir leurs papiers reconnus par la commission. Donc ça a été un moment un petit peu tendu déjà l'an dernier lors de la révision de la liste électorale, et qui aujourd'hui effectivement semble indiquer qu'il y a très très peu de confiance et dans la commission soi-disant indépendante et dans le conseil constitutionnel, qui est aussi évidemment très proche du pouvoir puisque c'est le président qui nomme la présidente.
Donc une tension qui ne fait que monter, d'autant que des opposants se font arrêter à tour de bras. L'appareil répressif a été bien huilé ces derniers temps. 13 membres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la semaine dernière arrêté pour complot contre l'autorité de l'État. Leur chef Tidjane Thiam n'a pas pu se présenter. La semaine précédente, ce sont deux cadres du parti de Laurent Gbagbo qui ont été inculpés, incarcérés pour les mêmes motifs, pour appel à l'insurrection. L'opposition qui appelle surtout à des manifestations pour l'instant, comme ce grand rassemblement le 11 octobre dernier à Cocody.
Notre idéologie, c'est la paix. Notre idéologie, c'est l'amour. Notre idéologie, c'est de. Nous demandons tranquillement, sans injure, ni bavure, sans calage, sans machette, sans bois, nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Qu'il revienne sur ses pas, parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays démocratique.
Est-ce que les appels à manifester de plusieurs partis ou alliances d'opposition ont été suivis ? Cette manifestante était interrogée par Africa News le 12 octobre dernier. Est-ce que plus largement, on peut dire, Camille Popineau, que les Ivoiriens et Ivoiriennes ont défilé massivement dans les rues ces derniers temps ? Ou ça reste assez timide, notamment parce que ceux qui appellent à manifester sont eux aussi de vieux caciques qu'on entend parler depuis tellement longtemps.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu des foules qui sont sorties dans la rue, aussi ne serait-ce que pour cause, enfin, de répression et de peur. Je crois qu'il y a, faut le dire, que les gens, ils ont quand même globalement très peur de manifester, de s'exprimer, et qu'il y a un vrai, puis il y a des, officiellement, le droit de manifester est remis en cause là depuis une semaine. Je pense que les gens sont assez, désespérés, saoulés. Il y a vraiment un enjeu de perte de croyance dans la capacité de toute façon à changer le système, et face à cette machine du parti actuel qui a une capacité à être assez hégémonique et à absorber différentes couches sociales en son sein pour faire taire les oppositions. Donc les manifestations, il y en a eu en août qui étaient assez importantes et où je me suis dit « Ah, c'est étonnant ». Enfin, je me suis dit qu'on était peut-être dans un changement de modalité à l'approche du scrutin, et les événements là et les barrières au droit de manifester récentes on fait me dire que les choses n'avaient pas tout à fait évolué comme je le pensais initialement.
Vous parlez de verrouillage. Sur 60 aspirants candidats à l'origine, 5 sont aujourd'hui en lice pour le premier tour de la présidentielle. Donc le président sortant Alassane Ouattara, plus 4 autres. Qu'est-ce qui leur a permis à ces 4-là, Richard Banegas, de se maintenir quand tant d'autres ont été écartés du scrutin par le Conseil constitutionnel?
Je ne plongerai pas dans les détails de leur dossier. Effectivement, quelques candidats de l'opposition ont été repêchés, validés par le Conseil constitutionnel. Simone Veil-Gbagbo, donc l'ancienne première dame, Awa Don Mello, qui tous les deux viennent un petit peu du même camp, en tout cas de l'ancien Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, de la gauche ivoirienne. Et puis Jean-Louis Billon, issu du PDC-IRDA, en opposition interne à Tidjane Thiam, qui était un de ses opposants au sein du parti, et donc qui est désormais un candidat indépendant, et puis Henriette Lagou, qui a été ministre et aussi qui était d'ailleurs à la commission électorale jusqu'à récemment. C'est une liste effectivement taillée sur mesure pour que Alassane Ouattara puisse faire son 4e mandat tranquillement, mais surtout aussi peut-être pour mettre des coins dans l'opposition, puisqu'on a effectivement des candidats et du PDCI avec Billon, mais aussi de la gauche ivoirienne, venue notamment pour Awa Don Mello du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, dont il a été exclu il n'y a pas très longtemps. Je vais peut-être rebondir aussi sur ce que disait Camille quant aux capacités de cette opposition à mobiliser ou à faire front dans la rue, parce que c'est une énorme question aujourd'hui, et peut-être comparer avec la situation qui prévalait il y a 5 ans de cela, en 2020, lorsque une situation un peu analogue se présentait à l'époque. La question du troisième mandat que vous évoquiez en introduction était un enjeu majeur pour toute la sous-région, où la question avait fait basculer le Burkina Faso dans une révolution civique et d'autres pays également. Donc il y avait une véritable cristallisation à ce moment-là autour du troisième mandat et une résistance qui s'était manifestée de la part de l'opposition sous la forme d'un boycott actif de l'opposition et puis la non-reconnaissance de l'élection d'Alassane Ouattara. Donc vraiment une stratégie de rupture par rapport à ça. Aujourd'hui, comme le disait Camille, il me semble qu'on est quand même dans une situation plus de résignation, à la fois parce que les partis d'opposition sont aussi, comme on vient de le dire, extrêmement divisés, donc ça c'est quand même un paramètre crucial, mais aussi peut-être parce que leurs troupes, leurs militants sont aussi lassés de prendre la rue, alors que leur chef, notamment l'un d'entre eux, réside toujours dans son hôtel particulier de Paris ou à Londres. Ce sont des logiques aussi peut-être d'éloignement, comme tu disais Camille, par rapport aux politiques, qui est aussi quelque chose que l'on observe dans nombre de pays, y compris en Occident. Donc cette espèce un petit peu de ras-le-bol, on regarde ailleurs parce que évidemment on n'a plus envie ni de se faire arrêter, ni même de se faire tuer pendant toutes ces années de guerre et de conflit pour juste faire son petit business. Donc je crois que cette logique de dépolitisation, elle est très très forte aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notamment dans les jeunes générations.
Guillaume Soro, lui, vit également en exil. On pense au Niger. En tout cas, les grands chefs de l'opposition, Laurent Gbagbo, dirige plus ou moins les manifestations à distance, mais que ce soit Awa Don Mello, donc un des candidats à la présidentielle, un très fidèle de Laurent Gbagbo, qui a présenté sa propre candidature fin juillet, par anticipation de ce que celle de Laurent Gbagbo serait invalidée, c'est ce qui s'est effectivement passé, mais vous le rappeliez, son parti ne le soutient pas, il concourt en indépendant. Jean-Louis Billon, pareil, homme d'affaires à la tête d'un grand groupe industriel qui produit du caoutchouc, du sucre de canne principalement, c'est un ancien ministre du commerce d'Alassane Ouattara, et le président de son parti, Tidjane Thiam, n'était pas d'accord avec sa candidature. On entend bien là, Camille Popineau, que cette culture présidentielle ou présidentialiste qu'on reproche à Alassane Ouattara et à tous les chefs d'État qui sont succédés existe aussi dans l'opposition. Un seul homme et pas d'autre.
Oui, tout à fait. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, dans ce que vous dites, il y a vraiment l'idée que même si on regarde les profils, en fait, même si une des personnes candidates venait à gagner, en fait, dans leur profil, aucun ne rompt avec les profils très élitistes de l'élite, enfin de du régime actuel, et ça se voit dans tous les partis politiques. Et en effet, Tidiane Thiam est peut-être le plus représentatif de cela, en sachant que il a un profil très internationalisé de la finance, il est complètement déconnecté aussi de en réalité d'une certaine base, et je crois que son absence de la Côte d'Ivoire ne fait que ajouter à ce sentiment aussi de distance par rapport aux électeurs ivoiriens. Mais c'est vrai qu'il y a des figures dans chaque parti qui sont extrêmement importantes, et il y a une personnification au sein de chaque parti qui est assez extraordinaire. Et je crois que quelque chose qui est intéressant, c'est aussi de voir l'évolution des partis dans le temps. Donc je pense qu'une des grosses différences qu'il y a entre aujourd'hui et 2020, c'est que aujourd'hui et comme depuis de nombreuses années, mais pour gagner une élection, il faut des ressources partisanes, il faut un parti qui soutient. Et on voit vraiment que les différents partis sont en train de s'effriter. En fait, à part le RHDP aujourd'hui, le PDCI est divisé, le FPI est divisé. Donc les partis historiquement très forts, qui ont un soutien électoral et une base sociale importante et des ressources, ils sont tous divisés. Et du coup, face à ça, le RHDP est d'autant plus
assuré. Le RHDP est parti d'Alassane Ouattara.
Oui, pardon. Le RHDP est parti d'Alassane Ouattara qui lui, est pour le coup, sur s'appuie sur des ressources plus solides et qui on pourrait revenir sur l'histoire du RHDP.
Du parti, mais en attendant, Alassane Ouattara, face à cette opposition incapable de présenter des candidats alternatifs, a beau jeu de dire que lui, juré, il prépare sa succession.
Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables.
Ouattara avait, il y a quelques années, il faut le dire, adoubé un successeur, Amadou Gon Coulibaly, mort d'un infarctus en juillet 2020. Un autre possible successeur, Ahmed Bakayoko, était mort 8 mois plus tard d'un cancer fulgurant, Richard Banegas. Est-ce que le président sortant Alassane Ouattara en lice pour un 4e mandat daigne faire une campagne qui ressemble à une campagne, ou est-ce qu'il estime sa victoire acquise pour lui, c'est 4e mandat de toute façon, quoi qu'il en soit? On entend bien qu'il parle déjà au présent.
Oui, c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, ce qui est visé, c'est le coup KO. Hein, au premier tour, une victoire au premier tour écrasante, c'est pour cela que fait campagne son équipe et son parti. Après, quant à savoir s'il va effectivement préparer sa succession, on peut même se demander à la liste des personnes qui sont décédées dans son entourage, hein, si d'autres candidats voudront s'approcher de lui, vu les risques. Hein, mais sans blaguer, effectivement, cette logique, disons, de hégémonique, hein, que l'on évoque depuis le début de cette émission, elle est là, et disons que l'élection ne fait qu'en quelque sorte valider un processus déjà de verrouillage du pouvoir qui est là depuis longtemps. Hein. Une grande coalition s'était constituée autour de Ouattara dès après la fin de la guerre, avec le PDCI d'un côté, et puis il faut le rappeler, les forces nouvelles, donc l'ancienne rébellion également, parce qu'on pourra peut-être
revenir de
Guillaume Soro sur ce point-là. Cette coalition s'est effritée progressivement jusqu'à se rompre en 2018-2019, si mes souvenirs sont bons, et depuis, le parti présidentiel a malgré tout quand même réussi à stabiliser, hein, sa base politique, sa base sociale, y compris sur le plan d'une économie politique aussi, où la gestion des privilèges lui a permis, comme le disait Camille tout à l'heure, de remercier un certain nombre de personnes qui désormais lui sont fidèles. Donc cette logique-là, hein, aussi d'une gestion très oufouettiste au fond, hein, du régime, parce que c'est aussi une manière de réinvention de l'ancien régime du père de la nation, comme on l'a appelé.
Un système très présidentialiste,
oui,
qui perdure d'après vous?
Qui perdure à la fois dans sa verticalité, mais aussi, comment dire, dans la façon de coaliser tout un ensemble d'intérêts dans le pays, notamment d'une nouvelle bourgeoisie d'État qui a prospéré, hein, pendant toute cette période d'après-guerre, qui a été quand même, il faut le dire aussi, un moment de reconstruction, de croissance forte, hein, avec 7% de croissance depuis le début de l'arrivée de Ouattara au pouvoir, mais une croissance évidemment qui a profité à certains et moins à d'autres. Donc une croissance très inégalitaire, à la fois sur le plan spatial, mais aussi sur le plan social. Hein, on a beaucoup parlé de l'émergence comme nouvelle idéologie, projection moderniste du régime ouattariste. Mais cette émergence, elle est aussi qualifiée par beaucoup de perdants, hein, qui ne voient pas le ruissellement comme en Côte d'Ivoire comme ici, hein, comme une énervance, hein, comme une manière aussi de dire, c'est toujours les mêmes qui en profitent. Et donc cette logique d'inégalité croissante qu'a généré aussi la croissance libérale, est quelque chose qui est aujourd'hui un gros point d'interrogation pour la suite.
Alors que dans les grands chiffres, dans les grandes lignes, si on ne creuse pas trop longtemps, Alassane Ouattara peut se targuer d'une croissance à 7% en moyenne depuis son élection, 7% par an. Il a ouvert le pays aux capitaux internationaux, on en pense ce qu'on veut, mais lui le met à son bilan. Il y a des investissements dans les infrastructures, il est parvenu à gagner sans doute la reconnaissance de certains Ivoiriens à ce niveau-là, et notamment quand il a fait campagne la semaine dernière à Daloa, la grande ville du centre-ouest du pays. C'est une ville dont on dit qu'elle est désormais acquise à sa cause, alors qu'elle a été très longtemps plutôt en faveur de Laurent Gbagbo, mais parce que cette ville aurait vu arriver à la fois les promesses de développement et leur concrétisation. Mais une croissance économique, comme vous le disiez, Richard Banegas, qui ne bénéficie pas à tout le monde, des carences dans les systèmes éducatifs et sanitaires. Il y a plus d'écoles qu'avant, mais pas assez d'enseignants qui se mettent régulièrement en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Quand à l'inverse, des figures de l'économie ivoirienne ou d'autres ont profité des largesses du parti. Camille Popinot, le parti nourrit d'abord ses propres enfants. C'est comme ça que ça marche.
Oui, mais enfants qui sont très nombreux et qui peuvent être de toutes de tous les bords politiques entre guillemets. Je dis ça parce que c'est vrai que le parti du RHDP a on le voit. Il récompense les fidèles, et il y a vraiment une dimension, on le voit avec la figure d'Amadou Koulibaly, qui était censé être le successeur en 2020 et qui faisait partie vraiment de ces technocrates fidèles qui font pas beaucoup de bruit et que Alassane Ouattara voulait mettre à sa succession. Et là, je pense à ça parce qu'il y a le chef actuel de l'armée de terre qui s'appelle Chérif Ousmane, qui est un ancien rebelle, enfin un des anciens commandants de la rébellion. C'est probablement celui qui s'est montré le plus fidèle depuis le début, depuis la fin de la guerre en 2011. Et il est aujourd'hui à la tête, du coup, de cette armée de terre, en sachant, vu le rôle stratégique de l'armée actuellement, enfin c'est intéressant de voir que même quand on est de la rébellion, en sachant que Ouattara a réprimé une grosse partie des anciens rebelles, y compris donc Soro et son mouvement du GPS, mais on voit que les personnes qui montrent leur loyauté sont extrêmement récompensées. Donc c'est vraiment un système dans lequel il faut montrer déférence au chef. Et en effet, on est récompensé. Et
c'est le restaurant. On appelle le parti d'Alassane Ouattara le restaurant, c'est ça. Ouais.
C'est ça. C'est le mot, le sobriquet commun qu'on utilise en Côte d'Ivoire pour parler du fait que voilà, tout le monde mange au restaurant. En tout cas, si on veut que tout se passe bien, mieux vaut manger au restaurant.
Richard Banegas.
Mais ce que dit Camille est important, parce qu'en fait, si on caricature un petit peu les termes de notre conversation, il y a une espèce de bascule qui s'est opérée au fil du temps, en cela que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, on le sait, en 2011, avec le soutien très, très direct de la rébellion, qui, effectivement, l'a mis sur le trône, je dirais, hein, avec l'aide de l'armée française, bien sûr.
Et l'intervention de l'armée française et de l'ONU à l'époque pour un camp, qui a intervenu en faveur du camp.
Qui a choisi son camp, clairement. Et ce qui était, disons, pendant quelques années, l'idée que l'on avait du régime, c'était d'un président et d'un gouvernement qui était un petit peu dans une dette vis-à-vis de cette rébellion qu'il avait portée au pouvoir. Et au fil du temps, effectivement, jouant de tout un ensemble de leviers de pouvoir, mais aussi précisément, hein, comme le disait Camille, de tout un... comment dire, une gestion des privilèges à l'égard notamment des anciens rebelles, des fameux Comzone, et puis d'autres personnes, des civils aussi au sein de la rébellion, Ouattara a réussi un peu à renverser en quelque sorte cette relation de dette et de loyauté qui lui est désormais due et à laquelle évidemment nombre de personnes aujourd'hui tiennent beaucoup, parce qu'effectivement leur avenir est conditionné au maintien au pouvoir d'Alassane Ouattara.
Et l'armée en tant que telle, l'armée ivoirienne, Camille Popinot, qui a si longtemps été à la fois très très divisée, sujette à des mutineries. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'elle est acquise à la cause d'Alassane Ouattara ou c'est un raccourci un peu grossier ?
Je pourrais pas dire, je ne sais pas si elle est acquise à Ouattara, mais c'est vrai que tout le laisse penser, en tout cas, quand on compare avec les années 2017-2018, où il y avait où une partie des ex-combattants qui avaient été intégrés à l'armée il y avait eu des mouvements importants. Depuis 2020, on voit plus du tout de mouvements comme cela. Donc je pense qu'il y a un réel, que l'armée est aujourd'hui globalement acquise à Ouattara. Même si je pense que Ouattara continue de s'en méfier comme de la peste, vu aussi le contexte régional où c'est quand même aussi la mode des coups d'État militaires et où je pense que voilà, même quelqu'un d'ailleurs comme le chef de l'armée terre, je pense que même s'il a la confiance du président, à mon avis, il est tout à fait surveillé comme toute personne qui a un pouvoir dans l'armée. Donc je pense qu'elle est acquise, mais je peux pas dire. ce qu'elle est vraiment.
Crainte des coups d'État militaires, mais pas de crainte des coups d'État constitutionnels. Apparemment, l'autre visage du péril, comme le dit le journaliste sénégalais Ousmane Diaye dans son essai L'Afrique contre la démocratie, qui parle de la Côte d'Ivoire comme d'autres pays d'Afrique, comme une de ces fictions démocratiques mal ficelées. C'est vrai, Richard Vanegas, que c'est difficile aujourd'hui de qualifier le régime politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est encore une démocratie ? On n'est quand même plus dans le système de parti unique qui a prévalu pendant 30 ans sous Félix Houphouët-Boigny. Et néanmoins, on entend bien tous les écueils de cette démocratie, toutes les limites.
Oui, bon, démocratie au sens institutionnel et constitutionnel du terme, il y a effectivement une reconnaissance du multipartisme, des candidats qui sont désormais autorisés là par le Conseil constitutionnel à faire campagne, mais dans les faits, effectivement, très concrètement, comme dans d'autres lieux, y compris aussi en Occident aujourd'hui, eh bien, on voit un rétrécissement de l'espace civique de manière vraiment très très forte.
Hein, c'est pas propre au continent africain, loin de là.
Non, et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est aussi une tendance globale. Qui aujourd'hui autorise effectivement certains présidents à faire fi aussi, y compris du résultat de certaines élections, de pouvoir écraser des oppositions et surtout aussi de ne point entendre la contestation sociale et des élections ou des manifestations qui peuvent se dérouler sans que ça ne fasse bouger le gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi ailleurs. Mais dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement, je crois qu'effectivement, ce que disait Camille est important, à savoir que les capacités de mobilisation des oppositions se sont fortement réduites ces dernières années. Le courant de gauche souverainiste, anticolonialiste qu'a représenté Laurent Gbagbo demeure une veine importante du débat public et sans doute encore un levier de mobilisation important, comme on l'a vu aussi dans d'autres pays de la sous-région, dans les pays de l'AES particulièrement. Mais en revanche, les moyens de ce courant-là sont éminemment beaucoup, beaucoup plus réduits qu'ils ne le furent auparavant, ne serait-ce parce qu'une partie de ces leaders a été arrêté, qu'ils n'ont plus les moyens financiers et que les partis sont divisés.
Camille Popineau ?
Oui, et je voudrais aussi ajouter que dans une des choses qui me paraît importante de dire, c'est aussi quand on regarde un peu l'équipe de campagne là, actuellement de Alassane Ouattara, on comprend que c'est le RHDP qui est en campagne, mais c'est aussi l'État qui est en campagne et le gouvernement. Enfin, en fait, absolument, donc que ce soit le président de l'Assemblée nationale, que ce soit la présidente du Sénat, que ce soit le vice-président. En fait, c'est toutes les grands cadres politiques du pays sont actuellement en campagne pour le président. Et donc, je pense que pour parler, il y a de terminologie de régime, je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir sur la question de la séparation des pouvoirs et qu'en fait, il y a quand même une confusion. On n'est plus dans un parti unique, mais il y a une confusion. On a l'impression quand même entre le parti du RHDP et les grands noms de l'État et qu'il y a quand même des parallèles assez forts entre les personnes qui ont des places très importantes dans le parti et des places très importantes dans le gouvernement et dans l'État de façon plus large. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît être très important à dire. Et aussi, dernier point qui me paraît par rapport à cette comparaison aussi à l'international, où c'est une tendance qu'on voit partout et c'est bien de le noter parce que c'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est une tendance générale. J'ai l'impression aussi à des régimes très forts qui vont promouvoir une idéologie ultra-libérale et dont le principal but est de protéger des intérêts économiques. Et c'est quand même ça aussi le pouvoir, le régime actuel d'Alassane Ouattara. Et c'est pour ça qu'il est autant d'ailleurs défendu par les diplomaties occidentales, etc. Et je pense que du coup, ça aussi, c'est une tendance importante de qu'on retrouve dans tous les pays. Enfin voilà, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, mais je pense que Alassane Ouattara, c'est un ancien dirigeant du FMI. Il faut rappeler qu'il vient quand même pas de n'importe où et que c'est quelqu'un qui a une idéologie libérale qui plaît aux chancelleries internationales.
Avec cette crainte, comme vous le rappeliez l'un et l'autre, de voir la Côte d'Ivoire basculer par un coup d'État dans un régime plus proche de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ces juntes militaires qui dirigent aujourd'hui des États réunis dans l'Alliance du Sahel. Le candidat Awad Onmelo, donc ancien fidèle de Laurent Gbagbo, est plutôt proche de la Russie. Depuis 4 ans, il est conseiller spécial du patronat russe qui souhaite investir dans le pays. Lui, il est vraiment partisan d'un rapprochement avec les États de l'Alliance du Sahel. Est-ce que Richard Banega, c'est un discours qui prend, entre guillemets, en Côte d'Ivoire? Qui ça intéresse, ce discours-là?
Bon, je pense pas. Là, il n'y a pas d'enquête spécifique sur ce sujet-là, mais connaissant un petit peu notamment toute cette mouvance que j'évoquais, anticolonialiste, de gauche.
Allez-y, tu sais, un petit coup.
Voilà, où il y avait tout un courant patriotique extrêmement puissant pendant de très nombreuses années. Ces personnes-là n'ont jamais véritablement magnifié l'expérience russe ou appelé, disons, à une intervention de Poutine, comme ça a pu être le cas dans les pays voisins. Donc, bon, je pense pas que ce soit aujourd'hui, disons, un levier de mobilisation suffisamment fort pour menacer le régime ou quoi que ce soit. En revanche, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ce courant patriotique et anticolonialiste, il a quand même une vigueur. On l'a vu notamment en 2021 lors du retour de Laurent Gbagbo de La Haye, hein, où effectivement il y a eu tout un espèce de messianisme qui s'est développé autour du retour du Christ de Mama, comme on l'appelait, avec une forme d'espèce de presque de prophétisme politique qu'incarne Laurent Gbagbo à cet égard, et qui voit dans la libération de la Côte d'Ivoire une espèce de libération aussi vis-à-vis de tout un ensemble de mécanismes de domination à l'échelle internationale, comme le disait Camille Popineau à l'instant. Et cette veine-là, quoi qu'on en pense, effectivement, elle demeure relativement vivace pour peu qu'elle soit organisée. C'est ça le point, parce que comme nous le disions à l'instant, les structures même de cette mobilisation ont plus ou moins disparu, ont été clairement affaiblies, et du côté de la société civile, il n'y a pas non plus véritablement de répondants. Parce qu'en comparaison de la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays de la sous-région, où par exemple au Burkina Faso, le ballet citoyen était très puissant, Yanamar au Sénégal. On n'a pas l'équivalent en Côte d'Ivoire, où le poids des partis demeure prépondérant. Donc il y a une emprise partisane en Côte d'Ivoire, et ça renvoie à la verticalité dont vous parliez tout à l'heure. Une emprise partisane qui laisse peu de place à d'autres acteurs, notamment de la société civile, pour mobiliser une alternative politique.
Au Mali, quand la junte militaire a pris le pouvoir après un coup d'État, en disant que l'armée devait reprendre le pouvoir parce que sans elle, la menace djihadiste allait faire encore plus de dégâts que si le président civil restait au pouvoir. C'était évidemment de très mauvaise foi, puisque l'armée a en réalité toujours été au pouvoir au Mali. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce qu'elle peut au moins se targuer, Camille Popineau, d'avoir une armée qui contient aujourd'hui cette menace? Parce qu'il me semble que depuis 2021, il n'y a plus eu d'attaque djihadiste sur le sol ivoirien. Est-ce que ça, c'est à mettre au crédit d'Alassane Ouattara, ou en tout cas, est-ce que lui, dans sa campagne, en fait régulièrement mention?
En tout cas, je crois qu'il essaie de se placer, et il l'est encore d'une certaine façon, il essaie de montrer la Côte d'Ivoire comme un verrou sous-régional face justement à la montée du djihadisme, etc., dans la région. Mais il y a des attaques régulières à la frontière, enfin vous y reviendrez peut-être dans l'émission demain, mais il y a des attaques régulières à la frontière, il y a des fonctionnaires qui ont été c'est extrêmement tendu à la frontière, donc
avec le Burkina Faso.
Oui, avec le Burkina Faso.
Oui, en effet, on en parlera demain.
Et du coup j'empiète pas sur l'émission de demain, mais je pense qu'on peut pas on peut difficilement dire que c'est complètement contrôlé et que cette frontière et que l'armée la maîtrise, même s'il y a un énorme effort, et je pense que c'est à la fois La Côte d'Ivoire investit énormément dans la lutte antiterroriste, soutenue aussi par la France dans cette entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très, enfin qui explique aussi, je pense, la position stratégique de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et pour de nombreux pays étrangers, et notamment pour la France, qui, dans la sous-région, en fait, comme on disait tout à l'heure, est largement critiquée, que ce soit dans les États de l'Alliance du Sahel ou même au Sénégal actuellement. La Côte d'Ivoire fait figure un peu de dernier pays qui soutient officiellement la France, alors même si la France a retiré ses troupes officiellement en janvier dernier. En fait, il y a encore une présence importante. Les militaires français aident aussi à la lutte antiterroriste, etc.
Mais en tout cas, ça n'aide pas, ça ne contribue pas à donner davantage de confiance dans la politique. Ce n'est pas sur ce sujet-là, en tout cas, que se fera l'élection. Des jeunes qui se désintéressent aujourd'hui de cette scène politique avec toujours les mêmes voix. Il y a aussi ceux qui ne peuvent pas voter car ils n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales. 8 700 000 électeurs seulement sont inscrits alors qu'on estime que 12 millions et demi de personnes sont en âge de voter sur le territoire ivoirien. Le président de la commission électorale indépendante accuse les partis d'avoir totalement raté la campagne de recensement.
Si les partis politiques avaient adhéré aux propositions faites par la commission électorale, qui était celle de faire de sorte qu'on puisse enrôler les gens dans les centres d'état civil, prépositionnés déjà sur toute l'étendue du territoire, on n'aurait pas une période dédiée à la révision. On aurait tous les jours de l'année la révision de la liste électorale. Si les partis politiques avait adhéré à cette idée qui consistait à dire que tous les Ivoiriens âgés de plus de 18 ans, détenteurs d'une carte d'identité, devaient être basculés systématiquement sur la liste électorale, on n'aurait pas eu de problème aujourd'hui au niveau de ceux qui ne se trouvent pas sur la liste électorale. Donc c'est peut-être ces observations que nous pouvons faire, mais dans tous les cas, nous nous inscrivons dans le ventre de la loi. Et quand on est dans la loi, il n'y a pas de souci.
Les papiers d'identité, vous abordez cette question de front, Richard Banegas, dans vos derniers livres coécrits avec Armando Coutolo. Il paraîtra le 23 octobre aux éditions Cartala. La guerre des papiers en Côte d'Ivoire. En quoi cette question qui a été le facteur déclencheur de la guerre de 2002, l'un des facteurs déclencheurs, l'impossibilité donc pour une partie des populations à l'époque du nord du pays, musulmanes, et pour certaines issues de l'immigration, d'accéder à la nationalité ivoirienne ou de ne pas être exclues de la vie politique et économique. En quoi cette question demeure aujourd'hui, même si elle ne concerne pas que la question de l'ivoirité, de savoir qui est plus ou moins ivoirien, mais elle concerne aussi des jeunes qui n'arrivent pas à s'inscrire.
Alors, c'est une question, effectivement, qui est beaucoup moins, disons, visible ou politisée qu'elle ne le fut auparavant. Hein. Pour rappel, effectivement, la guerre en Côte d'Ivoire s'est faite pour les papiers, en tout cas officiellement, c'est ainsi que les rebelles justifiaient leur cause, même si évidemment, comme Camille Popineau l'a montré dans sa recherche, il existait 1000 autres motifs de mobilisation. Cette question était aussi au cœur de tous les accords de paix, il faut le rappeler. Hein. C'était vraiment cette question de l'identification légale, de l'état civil, de comment on reconnaît une citoyenneté qui était au cœur de la reconstruction politique, disons, et de la sortie de guerre. Depuis lors, effectivement, la question s'est plus ou moins apaisée, en tout cas en apparence, avec tout un ensemble de réformes, un grand renfort de nouvelles technologies, la biométrie au premier chef, mais on le voit, et vous évoquiez là la révision de la liste électorale l'an dernier, on voit qu'en vérité cette question n'est pas complètement apaisée non plus, même dans ses aspects les plus techniques. Pour preuve, l'an dernier, donc lors de cette révision de la liste électorale, eh bien les requérants se sont vus exiger, en sus de la carte d'identité biométrique qui contient normalement toutes les informations, et pour avoir une carte d'identité biométrique, il faut avoir montré, disons, auparavant qu'on était bien ivoirien avec un certificat de nationalité, un acte de naissance ou un document en tenant lieu, eh bien on leur a redemandé ces papiers-là l'an dernier, ce qui a entraîné beaucoup de confusion et au fond, comme vous le disiez fort justement, très peu finalement de nouveaux inscrits, 700 000, pas plus que ça, sur la nouvelle liste électorale. Donc il y a cette dimension politico-électorale des papiers, mais bien au-delà de cela, les papiers, c'est pour la vie de tous les jours. Hein. C'est pour pouvoir s'inscrire à l'école, pour pouvoir passer un concours administratif, pour pouvoir, ne serait-ce que ouvrir un compte en banque ou ouvrir une ligne de téléphonie mobile désormais. Et donc, on est voilà, aujourd'hui, en dépit de ces mobilisations et de cette modernisation technologique, voilà, face à encore à des problèmes de ce type.
Comme si les jeunes, notamment en âge de voter, avaient besoin de ça. Déjà que le système politique ivoirien est dominé par les plus âgés, la société ivoirienne, elle est jeune, elle a 75% de la population à moins de 35 ans. En Côte d'Ivoire, on parle de corocratie. Sur les 225 députés de l'Assemblée nationale, par exemple, un seul a moins de 40 ans. Et le taux de participation est tombé à un peu plus de 50% lors des deux derniers scrutins présidentiels. 36% au municipal. Les jeunes se détournent de la politique et chantent cette jeunesse ivoirienne issue des quartiers populaires et qui galère aujourd'hui au quotidien. C'est la chanson Garçon de ce chanteur ivoirien qui s'appelle Imra.
Ils saluent tous mes éléments, mais nous j'y mets déjà c'est. S'il vous plaît, dites à la loi de me foutre la paix. J'ai trop de mal dans mon cœur, moi je veux trouver la paix. Le soir là, je suis dans mood, donc il prend plus les appels. Faut sortir chercher l'un, c'est ça, on dit garçon. Tu peux me prendre comme ton fils, mais ça dépend de la façon. Et salut à Djamé et puis à Bobo. Et salut les cités et puis le ghetto. Faut sortir chercher là, c'est sans dix garçon. Faut sortir chercher là, c'est sans dix garçon. Faut sortir chercher là. Ta plus grosse peine sera de compter sur les gens. Les plus gentils, tu vas les trouver plus méchants. Ma famille a besoin de billets. Et pour ça, je dois sortir et grouiller.
En ouchi, l'argot de la jeunesse populaire d'Abidjan, ça veut dire faire des petits boulots difficiles et mal payés. Ce chanteur ivoirien Imra et sa chanson Garçon, qui date d'il y a 2 ans. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série sur la Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre. Aujourd'hui, un scrutin explosif, déjà marqué par l'exclusion des grandes figures d'opposition au profit du seul président sortant, Alassane Ouattara, et de 4 concurrents. Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été exclu pour des raisons qui font ressurgir le débat sur l'ivoirité.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
On recommence, me concernant moi, petit neveu d'Oufoué Boigny, ancien ministre, ancien dirigeant de grandes structures ivoiriennes, qu'on vient de dire que j'étais pas ivoirien pendant toute cette période-là, c'est irresponsable. Et c'est tout ce qui a conduit le pays à des catastrophes et à des milliers de morts. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les leçons soient tirées de tout ça et que la raison revienne et que certains retrouvent la raison.
Tidjane Thiam a beau être né à Abidjan en 1962, certains doutent aujourd'hui de son ivoirité. Car si ce prétendant à la présidentielle a été exclu de la course, c'est en application de l'article 48 du Code de la nationalité. La juge a estimé qu'il ne pouvait pas figurer sur la liste électorale en cours, car il n'était plus ivoirien au moment de son inscription fin 2022, quand il est rentré après avoir vécu en France. À y regarder de près, ce n'est donc pas vraiment une remise en cause de ses origines ivoiriennes, mais la décision ravive ce débat sur l'ivoirité qui, dans les années 90, faisait la différence entre ivoirien de souche et ivoirien de circonstance. Barthélémy Gaillard a interrogé à ce sujet votre co-auteur Richard Banegas, Armando Coutolo.
Bonjour Armando Coutolo.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'anthropologie à l'université de Sienne. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion d'ivoirité et vous êtes par ailleurs co-auteur de La guerre des papiers en Côte d'Ivoire qui paraîtra aux éditions Cartala dans les jours à venir. Tout d'abord, sur quel motif la justice a-t-elle évincé Tidjane Thiam de la course à la présidentielle en avril dernier ?
Tidjane Thiam, il a été évincé parce que dans le passé, dans les années 80, si je me rappelle bien, il a demandé volontairement la nationalité française. Et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir deux nationalités. Donc, il a perdu, à un certain moment, la nationalité ivoirienne, et ce qui l'a fait exclure des listes électorales, automatiquement.
Et cette décision, elle a été largement commentée dans l'espace public, critiquée. Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de ses partisans, mais aussi peut-être de la part du pouvoir, pour commenter la décision de justice ?
Bien sûr, Tidjane Thiam n'a pas accepté cette décision. Ses avocats ont dénoncé un usage politique de la justice. Et en fait, on ne peut pas le considérer un apatride en Côte d'Ivoire. Il a eu effectivement une double nationalité qui vient de son histoire personnelle, comme d'ailleurs beaucoup de gens l'ont eu en Côte d'Ivoire, même dans le passé, dans la politique ivoirienne. Mais malgré ça, en septembre, comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a rejeté sa candidature. On sait bien que la politique ivoirienne a joué sur le thème de l'ivoirité qui rôde en Côte d'Ivoire depuis les années 90 pour fonder, disons, cette décision de la Cour constitutionnelle.
Et alors justement, cette notion d'ivoirité, elle a l'air de fonder la notion même de ce qu'est l'identité nationale ivoirienne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est née cette notion d'ivoirité et quel sens elle recouvrait à l'origine ?
Voilà, l'ivoirité a été inventé, si on le veut, dans la deuxième moitié des années 90, par un groupe d'intellectuels qui était très connecté à la présidence de Henri Conan Bédier. C'était le temps de la rivalité entre Henri Conan Bédier, le président à son temps, qui avait, disons, succédé à Houphouët Boigny, et de l'autre côté, Alassane Ouattara, qui était jugé de nationalité douteuse, parce qu'il venait du monde, des institutions internationales, de la Banque mondiale. Et l'ivoirité a été fabriquée dans des lieux très précis, l'université d'Abidjan, qui a édité une revue, la revue Racine, où les intellectuels dont je parlais ont construit l'idée d'une identité nationale fondée sur l'autochtonie. L'autochtonie est formulée en tant que descendance de l'individu d'une des groupes ethniques, ça c'était le terme utilisé par ces intellectuels, un des groupes ethniques originaires du pays, qui était là à la fondation de la Côte d'Ivoire coloniale en 1893. Donc tout descendant de ces groupes ethniques avait, disons, été porteur d'une identité nationale ivoirienne qui était à la base de la citoyenneté. Ce qui était proposé, c'était une idée, une conception de la citoyenneté et très identitaire. Mais en fait, au-delà de cette définition proposée par les créateurs académiques de l'ivoirité peut être décrite comme une idéologie identitaire qui a été mobilisé à tout moment pour exclure, stigmatiser en tant qu'étranger un adversaire politique dans l'espace politique ivoirien, en le définissant en tant qu'étranger. Et plusieurs acteurs politiques ont utilisé ça dans l'histoire de la crise qui allait du 2002 au 2011, par exemple. Et ça a joué un rôle très important dans les conflits ivoiriens dans les pays.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure est-ce que des acteurs politiques auraient mobilisé cette notion pour attiser aussi les conflictualités et notamment dans le cadre très précis des deux guerres civiles qui ont eu lieu entre 2002 et 2007 pour l'une et 2010-2011 pour l'autre? Comment est-ce que cette notion d'ivoirité est entrée en ligne de compte dans les conflits qui ont eu lieu?
Oui, parce qu'il faut savoir que dans un pays d'immigration comme la Côte d'Ivoire, dont l'économie des plantations a fait arriver un nombre très important d'étrangers, d'immigrés, dans un contexte comme ça, l'ivoirité a exprimé une instance, du point de vue idéologique, bien sûr, une instance de répossession de la souveraineté contre les étrangers et aussi contre une certaine projet de développement basé sur l'économie des plantations qui a, disons, amené dans l'ouest de la Côte d'Ivoire des milliers d'étrangers. En fait, il y a eu des recensements dans les années 90 où la proportion des étrangers, en fait, beaucoup d'eux étaient déjà nés en Côte d'Ivoire, mais avec les lois de la nationalité ivoirienne, n'avaient jamais été naturalisés. Mais on arrivait presque parfois au 28%, au 25% des étrangers, voire des personnes sans nationalité ivoirienne dans les pays. Et dans une situation comme ça, c'était facile de mobiliser, disons, une idéologie identitaire souverainiste, si on le veut avec un terme plus récent, pour se présenter en tant que, disons, les champions de leur autodétermination nationale.
Et de ce point de vue-ci, justement, à l'heure actuelle, au-delà de la seule situation juridique de Tidjane Thiam et de son éviction de la course à la présidentielle, est-ce qu'aujourd'hui, dans le débat public et politique, la notion d'ivoirité est reprise à son compte par certaines figures politiques, ou est-ce qu'à l'inverse, du fait de la lourde histoire et connotation qu'elle véhicule, elle est mobilisée avec beaucoup plus de prudence, voire carrément absente du débat public aujourd'hui?
Je trouve qu'elle est mobilisée avec beaucoup plus de prudence. Je pense que l'éviction de Tidjane Thiam n'est pas vraiment sur une base ivoiritaire et idéologique. Ce n'était qu'un moyen juridique qu'on a trouvé pour, disons, évincer l'adversaire le plus redoutable du président Alassane Ouattara.
Et par ailleurs, ce qui semble aller dans votre sens aussi, c'est que, si je ne me trompe pas, depuis 2016, les conditions pour être citoyen ivoirien ou même être éligible semblent s'être de plus en plus allégées. Il y a comme, quelque part, un allègement de la pression exercée par cette notion d'ivoirité.
Oui, bien sûr. En fait, si on le voit bien, l'histoire du président Alassane Ouattara est liée à la lutte, disons, si on le veut, contre l'ivoirité, parce que elle a été un peu inventée aussi dans ces contextes de compétition politique.
Pour l'évincer dans les années 90.
Donc, le gouvernement Ouattara a allégé pas mal les conditions d'accès à la citoyenneté. Donc, ce qu'on mobilise aujourd'hui, c'est des résidus d'idéologie qui, en tout cas, il est très dangereux de mobiliser dans un pays comme le Côte d'Ivoire, qui vient de sortir d'une longue crise, qui voit dans les pays, disons, une présence importante des gens qui n'ont pas de nationalité et qui quand même sont complètement inscrits et présents dans la société ivoirienne.
Merci beaucoup Armando Coutolo. Je rappelle que vous êtes professeur d'anthropologie à l'université de Sienne et par ailleurs co-auteur de La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, qui paraîtra aux éditions Cartala dans les jours à venir.
Merci à vous.
Tiens, de Barthélémy Gaillard. Alors, Camille Popineau, des débats où ressurgissent des résidus, comme dit Armando Coutolo, de cette question sur l'ivoirité, des manifestations réprimées, des opposants empêchés. Et pourtant, Camille Popineau, vous me dites que l'expression d'élection explosive ou éruptive que j'ai pu employer au cours de cette émission, cette expression est faussée, n'est pas adaptée. Pourquoi ?
J'ai l'impression, oui, que si on devait, pour conclure peut-être, s'il y a un mot qui peut caractériser cette campagne, c'est quand même qu'elle est extrêmement calme par rapport aux années précédentes. Et je crois qu'il y a un climat de peur important entre à la fois la peur de la répression du régime, des arrestations, des incarcérations et de la répression. Et de l'autre côté, un contexte, comme on en parlait avec Richard tout à l'heure, de contexte putschiste sous-régional dans lequel il y a quand même aussi la peur d'avoir un sort, entre guillemets, comme les pays de l'AES, que les Ivoiriens... L'Alliance des États du Sahel. Et du coup, il y a une peur entre, d'un côté, le régime et d'un côté, la situation putschiste.
Dans les pays voisins. Merci beaucoup, Camille Popineau, chercheuse post-doctorante à l'Université de Lille, rattachée au CERAPS, le Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales. Et merci, Richard Banega, chercheur au CERI, professeur à Sciences Po, co-auteur de La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, qui sort jeudi aux éditions Cartala. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Présentée ce matin par Camille Marigaud, la Bolivie a un nouveau président, Camille, et ouvre une nouvelle page politique de son histoire.
Le centriste Rodrigo Paz a remporté ce dimanche le second tour de la présidentielle avec 54,5% des voix face au conservateur Jorge Tuto Quiroga, qui a reconnu sa défaite. Victoire qui met fin à 20 ans de règne de la gauche, titre le New York Times, un nouveau cycle politique pour le quotidien bolivien El Deber. Après l'ère du mouvement vers le socialisme d'Evo Morales, le MAS, arrivé au pouvoir en 2006, il y a 20 ans, est absent de ce scrutin. La page était donc déjà en partie tournée, hein, puisque l'élection s'est jouée entre deux candidats de droite. Elle avait pour principal enjeu la crise économique dans le pays, déficit budgétaire, pénurie de dollars, baisse de la production de gaz et inflation. Rodrigo Paz qui s'est exprimé devant ses partisans après la proclamation des résultats.
Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional.
Voilà, la Bolivie retrouve peu à peu sa place sur la scène internationale, dit Rodrigo Paz, lui dont la vie était marquée par la politique avant même de naître, souligne cet autre quotidien bolivien, El Día. Son père, Jaime Paz Zamora, ayant dirigé le pays entre 1989 et 1993. Le fils, lui, se caractérise par sa proximité avec le peuple, ou plutôt les jeunes, la classe moyenne urbaine. Il a formé un tandem inédit avec son vice-président, Edmán Lara, souligne El Día, qui évoque un duo réalisé sur TikTok entre expérience politique et irruption populaire. Et dans les urnes, c'est le département de Cochabamba qui a fait basculer le scrutin lors de ce second tour, là d'où vient la famille d'Ana, 59 ans. Elle vit à Madrid et a voté comme 82 000 Boliviens installés en Espagne. Elle répète aux journalistes d'El País ce que ses proches restés en Bolivie lui racontent, que le pays va très mal, qu'il n'y a pas d'emploi, que la corruption est omniprésente et que donc elle est déçue par la gauche. Il est temps de voir comment la droite gouverne, conclut sa sœur aînée. Le changement, espère-t-elle, car voilà, le populisme, entendre celui du MAS, d'Evo Morales, est devenu intenable, estime Juan, autre électeur de 28 ans. Pour lui, l'élimination du parti de gauche aura des conséquences économiques lourdes, mais nécessaires. Même si le correspondant d'El País dans la capitale bolivienne, lui, veut croire que le virage conservateur sous Paz ne sera pas aussi brutal que celui auquel on aurait pu s'attendre sous Quiroga. Il avait, lui, promis de résoudre la crise économique avec l'aide du FMI, de supprimer toutes les subventions sur le carburant, de quoi faire doubler les prix à la pompe. Avec la victoire de Rodrigo Paz, on assiste au trébuchement des extrêmes de droite comme de gauche, selon El País.
Et le nouveau président promet le capitalisme pour tous ?
Un concept encore peu clair, estime El País, mais dans les grandes lignes, il s'agit de rendre le crédit accessible, d'alléger la fiscalité ou encore de supprimer les barrières à l'importation pour les produits que la Bolivie ne fabrique pas, résume El Día. De quoi séduire ce fameux peuple, une nouvelle bourgeoisie née pendant que le MAS d'Evo Morales était au pouvoir, explique El País. Ce dernier, désormais considéré inéligible par la Constitution et visé par un mandat d'arrêt pour une affaire de traite de mineurs qu'il conteste, a appelé à voter nul pendant cette élection, affirmant qu'aucun des deux candidats de droite ne représente le peuple et les peuples autochtones. Il se réserve ce rôle, conclut El País.
Au Royaume-Uni, Camille Marigot, le prince Andrew renonce à son titre royal.
Vendredi, après une discussion avec le roi Charles III, qui est aussi son frère, le prince Andrew a accepté d'abandonner son titre de duc d'York, reçu de sa mère, la défunte Elisabeth II, rappelle la BBC. Cela intervient juste avant la parution, ce mardi, des mémoires de Virginia Giuffre. Dans ce livre, l'avocate qui s'est suicidée en début d'année accuse le prince Andrew d'agression sexuelle quand elle avait 17 ans, au domicile de Ghislaine Maxwell, ex-compagne et complice de Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires américain retrouvé mort dans sa cellule en 2019, avant un procès pour crime sexuel, et avec qui le prince Andrew est accusé d'avoir noué des liens étroits. Ce dernier nie en bloc. Pourtant, selon le Mail on Sunday de ce week-end, non seulement le prince a été présenté à une deuxième victime d'Epstein, mais le prince Andrew aurait aussi demandé à la police d'enquêter sur Giuffre pour la compromettre. La police enquête donc depuis hier, et si la police royale, cette fois, s'y mettait, ce serait une première en 20 ans, souligne le Sunday Telegraph. Selon le quotidien, qui cite des sources au palais de Buckingham, cette révélation s'est avérée être un point de bascule pour le roi Charles, qui a décidé de pousser son frère à renoncer à son titre royal. Mais il faut pour cela une loi. Le Parlement est donc sous pression pour examiner également ce que la famille royale savait des liens entre le prince Andrew et Jeffrey Epstein, indique le Guardian. Rien ne sera plus jamais comme avant pour Andrew et les autres Windsor. La vie pour laquelle il est né a été remplacé par une vie qu'il détestera, tacle dans un éditorial au vitriol Stephen Betts, ancien chroniqueur royal du quotidien britannique.
Merci Camille Marigot.